À Madagascar, on estime que près de 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Alors, pour sortir de leur misère, les plus démunis n'ont d'autre choix que la prostitution ou le recyclage des déchets.
Nocibé, une île côtière de Madagascar située dans le canal du Mozambique. Derrière ces images de cartes postales qui attirent près de 200 000 visiteurs chaque année, se cache une triste réalité. Nocibé souffre d'un problème chronique, le tourisme sexuel. Ici, à Ambatulok, 4 500 habitants, des milliers de jeunes filles sans avenir viennent chaque jour proposer leurs services à des vazas, les étrangers. Mais la première clientèle pour les prostituées, ce sont les hommes mûrs et les retraités. Philippe, réunionnais, jeune retraité, vient régulièrement sur l'île de Nocibé pour faire la fête.
Ici, c'est la fête, c'est la fiesta. Moi, je sais que je pars 10 jours et je mets une semaine avant, en fait. C'est une semaine calme. À tout niveau.
Parce que pendant 10 jours, c'est...
Pendant 10 jours, c'est speed, speed, speed.
Voilà.
Parce que ce que vous faites ici, moi, je m'efforce de le faire partout dans le monde. Bon, je parle pas en Thaïlande, c'est pareil qu'ici et tout. Mais à La Réunion aussi. Ou ailleurs aussi. C'est plus dur, hein.
C'est plus facile ici.
Attention, c'est plus... Ouais, c'est... Je viens me réentraîner ici.
Cette consommation sexuelle est un fléau à Nocibé. La plupart des prostituées sont mineures et la pauvreté galopante. 70% de la population de Madagascar vit avec moins d'un euro par jour. Le tourisme à Nocibé constitue la première ressource économique. Depuis 20 ans, une petite communauté de 700 Français s'est installée sur l'île. 30% d'entre eux sont des retraités, concentrés sur les plages d'Ambatulok. Claude a 75 ans. C'est après plusieurs séjours à Nocibé qu'il a décidé de quitter sa Belgique natale pour venir s'installer définitivement dans une petite maison à 100 mètres de la plage. En s'installant ici avec 1000 euros de pension par mois, Claude a multiplié par 6 son pouvoir d'achat.
Je suis venu ici pour pouvoir survivre, parce qu'avec la petite pension que j'ai en Belgique, j'arrive pas. Puis j'ai vu, quand je suis venu ici là, pendant le premier mois, j'ai vu qu'il faisait bon, un bon climat, un beau paysage, enfin tout était très bien, quoi. Et, vu le coût de la vie et tout, j'ai tout laissé en Belgique, je suis arrivé ici en me disant, bon, ben, je vais terminer mes jours à Madagascar. Hein.
Mais ce que Claude est venu chercher ici est moins innocent que la carte postale qu'il nous décrit.
Ici, il y a quand même pas mal de filles qui ont une vingtaine d'années, même moins, 18 ans, 20 ans, 30 ans. Il n'y a pas de problème, quoi. 20 000 ariari, la fille, elle est toute heureuse. Hein.
D'accord, ça vous fait rester?
Ah, c'est une des raisons pour lesquelles on est bien ici, quoi.
20 000 ariari, l'équivalent de 6 euros pour une nuit d'amour. La plupart des prostituées partagent le même rêve, se marier avec un vaza, retraité, pour assurer leur avenir et souvent celui de toute une famille.
En arrivant ici, j'ai trouvé une malgache, je me suis marié avec. Et c'est vrai que la mentalité malgache et la mentalité européenne, c'est deux. Hein.
C'est-à-dire?
Ah ben ici, elles sortent. Avec des amis, elles sont pas à la maison, on les voit pratiquement jamais. Le soir, vite en arrivant, pour manger du cat avec toute une bande de copains et de copines. Et après, à 1h du matin, après avoir été sur l'ordinateur jouer avec les jeux, hop, elle va dormir, elle se lève à 6h, moi je me lève plus tard, hop, elle est repartie. Quand je téléphone pour demander où elle est, ah, pas loin, voilà. Donc, et puis un beau jour, je l'ai trouvé avec un malgache dans une chambre d'hôtel. Donc, je l'ai fait prendre en adultère par un huissier de justice. Et puis voilà, j'ai divorcé 7 mois après.
Depuis son divorce, Claude vit seul et partage son temps entre ses amis sur Internet et les prostituées de son quartier. La plupart des prostituées de Madagascar sont mineures et abordent la prostitution comme un passage obligatoire pour s'offrir un avenir. On estime qu'aujourd'hui, 8% de la population locale se prostitue, ce qui représenterait environ 6 à 7 000 prostituées sur la seule île de Nosy Be. Un phénomène qui n'est pas près d'être endigué, car la pauvreté dans les campagnes pousse les familles malgaches les plus pauvres à émigrer vers les zones touristiques. La terre nourricière de l'île aux parfums ne suffit plus à nourrir ses enfants devenus trop nombreux. En 50 ans, la population de Madagascar a augmenté plus vite que les productions agricoles. Les terres se sont appauvries, les rendements ont baissé de 20%. Les machines agricoles coûtant trop cher, des familles entières de paysans quittent leurs champs et se lancent dans une course à la survie. Nous partons en direction des Hautes Terres, au centre de Madagascar. Là-bas, une nouvelle maladie vient d'apparaître, la fièvre de l'or. Les derniers filons viennent d'être localisés dans la région d'Ambatoulampe. Ici, à quelques centaines de mètres de petites parcelles agricoles, une compagnie anglo-saxonne est venue sonder les sous-sols et aurait découvert que ces collines contiendraient d'énormes quantités d'or enfouies dans les profondeurs, à plus de 150 mètres. Des centaines de paysans sont venus prospecter au plus vite avant l'arrivée des pelleteuses. Une course contre la montre pour tenter de grappiller quelques miettes de ce trésor. Ces paysans improvisés en prospecteurs d'or sont arrivés il y a 4 mois. C'est avec des moyens dérisoires qu'il creuse des trous au hasard.
Il n'a pas peur, lui. C'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire.
C'est comme n'importe quel travail.
C'est comme s'il descendait par l'ascenseur.
Ce jeune malgache risque sa vie pour quelques grammes d'or en plongeant dans des boyaux creusés jusqu'à 30 mètres. La technique de prospection est simple. On creuse des tunnels latéraux tous les 5 mètres. Et c'est en observant la couleur de la terre qu'ils peuvent suivre le filon d'or. Aujourd'hui, avant de creuser plus profondément, il faut renforcer en urgence la dernière galerie avec des madriers, un travail de forçat. L'or est là, quelque part, dans ses sous-sols. Mais pour atteindre un filon important, il faudrait descendre jusqu'à 150 mètres. Mission impossible pour nos prospecteurs. Lorsque le forage atteint les 40 mètres, cela signifie que ces puits sont devenus de véritables gruyères. Ils peuvent s'écrouler à tout instant, car l'eau s'infiltre en permanence.
Là, la personne qui est en bas reste encore en bas, pendant que nous, on va faire monter l'eau. Il faut au moins 4 personnes pour manœuvrer la manivelle, car l'eau est vraiment très lourde. Ça peut atteindre 100 kg, 120 kg. On ne peut pas le faire seul. C'est toujours comme ça qu'on fait pour remonter l'eau.
La saison des pluies approche. Bientôt, les puits seront inaccessibles. En attendant, les averses quotidiennes remplissent régulièrement les galeries. Chaque matin, l'équipe doit évacuer pendant 2 heures plus d'un mètre cube d'eau. Dans ces baignoires, ces femmes paysannes habituées aux rizières font le même geste des heures durant, tamiser la boue pour espérer récolter quelques poussières d'or. Le liseré jaune qui brille sous le soleil malgache dans cette battée, c'est la récompense. Environ 1/10 de gramme d'or. Cet or sera vendu à Marie, qui vient installer régulièrement son comptoir d'achat sur les lieux. Les récoltes sont tellement maigres qu'elle a une technique bien particulière pour effectuer la pesée.
À quoi servent ces allumettes ?
À peser.
Combien de décigrammes ?
10 allumettes font 1 gramme.
Je viens de gagner 2 euros, mais je ne sais pas pour combien de décigrammes d'or.
2 euros pour environ 3 décigrammes.
Cet argent, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ?
C'est pour aller acheter du riz.
Pour toute la famille ? Pour combien de temps ?
Parfois, ça peut durer une semaine. On ne mange du riz que le soir. Mais le midi, on mange d'autres aliments.
Le gramme d'or des paysans se négocie à 6 euros. Marie le revendra à Antananarive, la capitale de Madagascar, entre 30 et 32 euros, suivant le cours. Depuis la flambée du cours de l'or et la crise politique, les mines illicites comme celle-ci se multiplient. Elles seraient des dizaines à voir le jour dans les Hautes Terres. Madagascar est un paradoxe. Une république bousculée régulièrement par des coups d'État. Un régime démocratique où la corruption massive entre hommes politiques et hauts fonctionnaires retarde sans cesse un développement économique équitable pour l'ensemble de la population. Conséquence directe, Antananarivo, la capitale, le poumon de l'île, est au bord de l'asphyxie. L'écart entre riches et pauvres ne cesse de se creuser. 92% de la population ici vit en dessous du seuil de pauvreté. Si le nord de la capitale appartient aux nantis, le sud est devenu une ville en déliquescence où ses habitants ne doivent leur survie qu'au recyclage des déchets. Nous sommes à Kyanju, sur le territoire des chiffonniers. Ici, 60 familles vivent du moindre sachet en plastique. Cette décharge de 15 hectares constitue pour Roland une mine à ciel ouvert. Dans ce capharnaüm, son œil exercé par des milliers de cueillettes dérisoires lui permet de repérer les seules denrées qui ont de la valeur.
Le travail, c'est de s'occuper des ordures. Ce que l'on recherche, c'est du charbon et des os. En fait, il faut faire comme ça. Et ça, on le récupère, ça. C'est de l'os.
Le charbon est le premier combustible des foyers malgaches pour la cuisine. Les os, eux, sont réduits en poudre pour fabriquer, d'après la croyance populaire, des remèdes de toutes sortes.
Il y a des gens qui tombent malades. C'est en fonction de ta capacité à supporter les conditions. Par exemple, si ça fait longtemps que tu vis ici, alors tu peux supporter l'odeur des ordures. Ça, c'est cher, ça. Ça, c'est très cher, ces sachets-là.
Ce sachet en plastique a de la valeur parce qu'il n'est pas troué. 4 sachets en bon état comme celui-là rapportent 10 centimes d'euros. Depuis quelque temps, Roland fait de maigres récoltes. Des petites bouteilles de verre. Des boîtes de conserve. Une plaque de cuivre. Et toujours des petits morceaux de charbon.
Si par exemple ça c'est plein, ça peut être 6000 ariary, voire 6400. Ou alors même dans les 7000 ariary.
Ce panier rapportera à Roland 1,5 €. À peine de quoi nourrir sa famille jusqu'à demain. Environ 400 chiffonniers vivent sur cette décharge d'Antananarivo. Leur pauvreté va au-delà de la notion de quart-monde. Ici, même les déchets se font parfois rares.